Alors, on va continuer notre étude sur la doctrine de la fin des temps, eschatologie, la fin des temps, les années qui vont arriver bientôt peut-être. On va aborder ce matin une prophétie qui est peut-être la plus belle de toute la Bible, celle du retour du Seigneur. Est-ce que vous attendez le retour du Seigneur ? Amen. Alors, on va regarder dans l'évangile de Luc, chapitre 21. On va prendre déjà versets 1 à 12, puis 20 à 36. Avant de lire, je vais prier. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, nous sommes là, avec des oreilles ouvertes, que nos cœurs soient attentifs, Seigneur, et que tu parles au travers de ta parole pour édifier ton peuple et faire connaître ton nom, Seigneur. Nous t'en prions, parle-nous en Jésus-Christ. Amen. Alors, Luc 21, d'abord versets 1 à 12, et puis on lira 20 à 36. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ?» Jésus répondit « Faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. » En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » et le moment est arrivé. Ne les écoutez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit « Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Puis verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours. Ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs, jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'il bourgeonne, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Alors, c'est un long passage. Alors, on trouve dans cet épisode, il y a beaucoup de choses. Hein. Ce passage-là, on le retrouve dans trois évangiles en tout. Des évangiles qu'on appelle synoptiques, ça veut dire qu'ils se rassemblent. Il y a Marc, Matthieu et Luc. Quand Dieu répète à de nombreuses reprises, c'est que c'est important. Donc, on va bien s'y arrêter ce matin. Alors, on trouve Jésus dans le temple avec les disciples. Ça commence par un enseignement sur les offrandes, sur la libéralité, sur la façon dont on doit donner son offrande avec amour. Alors, ses disciples, ils sont à côté, mais ils n'écoutent pas vraiment, on a l'impression. Est-ce qu'en fait, ils s'entendent regarder le bâtiment? Ils disent, ah, quand même, hein, c'est joli, hein? Il est beau, le temple, hein? Il est bien fait, hein? Il y a des belles pierres. T'as vu, maître? C'est joli, hein? Ils sont plutôt concernés, voilà, par l'édifice. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il leur répondit? Tout ça, un jour, il n'y aura plus rien. Ça va être complètement détruit. Un peu comme Notre-Dame de Paris. Mais le bâtiment, il était joli, hein? C'était très beau, hein? Et puis un jour, on allume la radio, puis oh, oh qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus la cathédrale, enfin presque. Et alors là, on voit la générosité des hommes, on voit leur libéralité. Alors on voit dans les médias les gens qui arrivent en disant « Bonjour, alors moi je donne 200 millions. Moi je donne 100 millions. Nous, 10. Nous, 500. » Enfin, regardez ce que dit Matthieu 6, versets 2 à 4. Et Jésus qui enseigne là encore, il dit « Lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. » Il faut noter que quelques mois avant l'incendie de Notre-Dame, ils n'arrivaient pas à trouver de fonds pour restaurer la cathédrale. Ils ont dû partir aux États-Unis parce qu'en France, il n'y a personne que ça intéressait. Ils ont eu des fonds aux États-Unis. Et là, d'un coup, comme c'est médiatique et que ça fait le 20h de TF1, on voit tout le monde qui s'empresse en disant 100 millions, 200 millions, 500 millions. Un exemple de générosité bien hypocrite, les amis. Mais revenons à notre passage. Le retour du Seigneur, c'est ça qui va nous intéresser plutôt ce matin. Et on le trouve de nombreuses reprises dans la Bible. C'est le plus important pour le chrétien, après l'annonce du Seigneur, la mort du Seigneur, l'étape la plus importante, l'événement le plus important dans la Bible pour les chrétiens, c'est le retour du Seigneur. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que Paul mentionne aussi. Il dit que ça fait partie des trois états du vrai chrétien. Un vrai chrétien, on doit le reconnaître d'une certaine façon. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. Si on disait, c'est quoi un chrétien? On aurait peut-être la définition ici. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. Paul dit de fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous, et c'est là que c'est intéressant, comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Donc les trois étapes du chrétien ici. Qu'est-ce qu'un chrétien? Premièrement, il est converti. Vous, vous êtes tourné vers Dieu. Deuxièmement, si tu peux remonter juste un peu. Voilà, premièrement, il s'est tourné vers Dieu. Il a abandonné ses idoles, statues ou autres. Hein. Donc il est converti. Pourquoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc un authentique chrétien, c'est quelqu'un qui sert. Et le verset suivant. Et son étape ensuite, c'est d'attendre également. C'est quelqu'un qui attend le retour de Christ. Hein, quelqu'un qui se dirait chrétien, qui n'attendrait pas le retour de Christ, qui dirait « Ouh là là, surtout pas qu'il revienne », il y aurait un vrai problème. Voilà. Le retour de Christ, c'est présent 319 fois dans le Nouveau Testament. Un verset sur 25. Je n'ai pas compté. Je fais confiance à la personne qui a fait le calcul. Donc c'est quelque chose de très important. Et effectivement, les disciples en avaient entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup par le maître. Jésus en a parlé dans deux façons. Tout d'abord, il a fait des grands discours eschatologiques. Eschatologique, ça veut dire temps de la fin. Alors, c'est Matthieu 24 et 25, Marc 13 et Luc 17 à 21, celui qu'on vient de lire ce matin. Mais il y a également toutes les paraboles que vous connaissez. L'ivraie et le bon grain, c'est le royaume de Dieu. Les 10 vierges, ça parle du royaume de Dieu, son retour. Parabole des talents aussi. Les serviteurs fidèles et infidèles, le juge inique, etc. Si vous relisez toutes ces paraboles, et on va regarder un tout petit peu après, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est toujours retour du Seigneur, royaume de Dieu. Donc les disciples, ils savaient, le Seigneur n'avait pas caché, qu'il allait revenir un jour. Et ils attendaient cela. Alors c'est pour ça qu'il pose la question, si on revient dans Luc 21, verset 7. Si tu veux bien afficher. Donc, Christ enseigne, etc. Puis il leur dit, voilà, le bâtiment, le temple, il va être détruit. Alors il lui demande, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? Alors, on va regarder la réponse de Jésus, mais pour bien comprendre sa réponse, il faut bien regarder la question. En fait, la question, elle est double. Première partie, c'est quand donc cela arrivera-t-il? Donc, quand est-ce que le temple va être détruit? Parce que tu nous dis que le temple va être détruit, on ne restera plus pierre sur pierre et que tu vas revenir. Donc, quand est-ce que ça va arriver? Et deuxièmement, quels sont les signes qui vont nous permettre de reconnaître que c'est le moment est venu? Alors, première partie concernant la destruction du temple et la venue de Christ. C'est la première partie de la question. Le temple, bah, il a été détruit, les amis. Ça, c'est fait, on va dire. En l'an 70, sous le gouverneur Titus, Jérusalem a été prise, la ville a été, après un siège assez long, la ville va être détruite, les Juifs vont être déportés, le temple va être pillé, puis brûlé, et aujourd'hui, il ne reste plus qu'un pan de mur, ce qu'on appelle le mur des Lamentations. C'est ce qui reste à peu près de cet édifice-là. Donc, il n'y a plus rien. Ça, c'est fait. Ensuite, le retour de Christ. Waouh, c'est long, hein, 2000 ans. Hein. Ça peut être long, 2000 ans. Mais regardez ce que dit le psaume 90, verset 3-4. Alors, c'est un verset que vous connaissez peut-être dans 1 Pierre, mais le psaume 90 en parle aussi. Psaume 90, versets 3 et 4. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. C'est-à-dire pour nous, 1000 ans, pour Dieu, c'est un jour. Donc si Christ est parti il y a 2000 ans, pour Dieu, ça fait 2 jours. Pour lui, à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose, quoi. 2 jours. Pour nous, c'est long, hein, Seigneur, tu vas revenir quand? Mais pour Dieu, c'est 2 jours. Plutôt court, hein. Mais Dieu n'avait pas caché que le temps serait long, hein, pour les hommes. Il n'avait pas caché, hein. Regardez avec moi, on a parlé des certaines paraboles tout à l'heure. On va regarder la parabole du méchant serviteur. Matthieu 24, versets 48 à 49. Le Seigneur n'avait rien caché. Il n'avait pas dit... les disciples pensaient qu'il revenait tout de suite après son départ vers le ciel, mais la parole était assez claire. Vous savez, c'est la parabole où il y a un méchant serviteur qui va profiter que le maître soit parti pour exploiter les autres. Et Jésus dit, si c'est un mauvais serviteur qui séduit en lui-même, mon maître tarde à venir. Ah, le maître. Cette parabole-là, c'est le retour du Seigneur, le maître qui doit revenir. Et là, il dit, le maître va tarder à revenir. Regardez un petit peu plus loin dans Matthieu 25, versets 5 à 6. Là, c'est la parabole des 10 vierges. Vous savez, avec les l'huile et tout ça. Donc, elle s'endort, mais comme le marié tardait. Elle ne s'y attendait pas, elle s'est endormie. Hein. C'était, elles sont assoupies en disant, c'est long, il tarde. Ah, il devait tarder, il le dit bien, là. Et regardez encore un petit peu plus loin, c'est la parabole des talents, au verset 19. Là, Jésus enseigne plusieurs paraboles sur le royaume de Dieu. Il en sera du royaume de Dieu, comme, etc. Et là, on a la parabole des talents. Et là, c'est le maître qui part, il confie des talents. Et on nous dit, longtemps après, le maître revint. Donc Jésus, il avait été assez clair quand même en disant, ça ne va pas être tout de suite, hein. Ça va mettre quand même un certain temps. Hein. Alors peut-être que les disciples n'avaient pas vu au départ ou n'avaient pas compris. On va voir que des fois, le Seigneur leur disait des choses, puis on va voir qu'ils ne comprenaient pas tout de suite. Mais nous, des fois aussi, quand on lit la Bible, on ne comprend pas tout, hein, faut être honnête. Hein. Des fois, il nous faut du temps. Hein. Alors, c'est long, 2000 ans, les amis? Ouais, quand même, on aimerait bien qu'il revienne tout de suite, le Seigneur. Hein. Mais la Bible nous explique pourquoi c'est lent. C'est le temps de la patience de Dieu. Le Seigneur est patient parce qu'il attend que le plus grand nombre vienne à lui. Voilà. À Golgotha, Christ, quand il est mort, il a payé, par sa mort, le prix du péché des fautes de toute l'humanité, de chacun d'entre nous ce matin. Il est mort pour ça. et dit maintenant, voilà, tous ceux qui acceptent ce sacrifice comme rançon pour leur propre crime, ou faute, ou péché, ils sont sauvés, et ils gagneront le royaume avec moi. Alors, Dieu, il attend que le plus grand nombre s'ajoute. Honnêtement, s'il était revenu il y a 20 ans, Christ, j'aurais pas été sauvé. Il y a 20 ans, je t'ai pas sauvé. Si Christ était revenu il y a 20 ans, qui aurait été sauvé, là? Qui est converti depuis plus de 20 ans? Levez la main, les convertis de plus de 20 ans. Heureusement que le Seigneur a tardé un peu, hein. Sinon, nous, on serait mal, hein. Donc, merci Seigneur pour la patience. Et tant pis si c'est long, il faudra patienter encore un peu. Le Seigneur reviendra, mais si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel avec lui? Qui est sûr d'aller au ciel avec le Seigneur si Christ revient aujourd'hui? Dites Amen.
Amen. Amen.
Bon, gloire à Dieu. Mais si le Seigneur revenait aujourd'hui, et si vous n'avez pas dit Amen, si vous n'avez pas levé la main, vous en êtes où aujourd'hui? Si le Seigneur revient, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on va voir qu'il va prendre son Église avec lui. Hein. Après, il y a de la tribulation. Je ne vais pas détailler forcément tout ce matin, mais ce que dit la Bible, c'est que Jésus vient enlever son Église, les chrétiens, et après, il y aura un temps de tribulation que vous avez vu avec Alain dimanche dernier. Temps redoutable. On va voir quelques détails ce matin. Si le Seigneur revient maintenant, vous faites quoi? C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder. Dieu est patient, mais n'abusons pas de la patience. Les parents sont patients. Si vous avez des enfants, des fois, il faut être patient avec les enfants. Mais il y a des fois, on dit stop, fin de la récréation, punition. Et nous n'abusons pas de la patience de Dieu. Alors, les signes maintenant qui concernent le retour de Christ. On a vu la partie de la destruction du temple et du retour du Seigneur donc, qui va venir. Le temple a été détruit, la première partie des versets est accomplie, la deuxième partie est à venir. Maintenant, quels vont être les signes qui vont nous permettre de reconnaître la venue du Seigneur? Alors déjà, j'ai laissé volontairement le passage, il y en a un qui nous pose des difficultés, c'est le figuier. On va le relire. Luc 21, versets 29 à 32. C'est un petit détail, on peut être un peu embêté. Donc Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. On a de la chance à Nice, il y a des figuiers, ça peut nous parler justement. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même déjà que l'été est proche. Ah, c'est le printemps, il y a des bourgeons là. Si vous n'avez pas de figuier dans votre région, il y a des fleurs aussi. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Donc Jésus donne plein de détails, destruction du temple, retour du Seigneur, etc., les temps de la fin et tout, puis à la fin il dit, je vous dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout ça arrive. Alors si on a une lecture rapide, on peut dire, ah, bon, le temple, ok, mais ils n'ont pas vu les temps de la fin, ils sont déjà morts. Alors là, on est un peu embêté, quoi. Ok, alors on va détailler. En fait, il faut découper le passage en deux parties. Luc 21, il faut le découper en deux parties. Versets 20 à 24, si tu veux. Ça, c'est la première partie du verset. Donc, quand il donne les signes des temps de la fin, la première partie, c'est « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée ». Voilà. Ça, c'est la première partie, Jérusalem. Et verset 24. Donc là, il dit « Sortez, si vous êtes de Jérusalem, sortez. Si vous êtes dans les champs, fuyez, etc. Tomberont sur le tranchant de l'épée et tout ça. » Ça, c'est la destruction de Jérusalem et du temple. Ça, c'est fait. Ça va continuer. Et Jérusalem sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Nous sommes dans la période accordée aux nations. D'accord ? Jérusalem est actuellement pas entièrement juive à 100%. D'ailleurs, vous voyez sur les planètes des mosquées, souvent il y a les intifada, tout ça. Enfin, il y a des conflits sur cette partie du monde. Donc là, ça explique cette partie-là, c'est destruction de Jérusalem. Ça, c'est fait. Maintenant, on est dans la période accordée aux nations qui doit prendre fin et on est encore dans la période accordée aux nations. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie à présent, c'est le verset 25 à 28. Ça, c'est ce qui doit venir. Alors, donc, il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. C'est la fin des nations, la fin du temps des nations. Épouvantées par le bruit de la mer et des vagues, des hommes rendront l'âme. Vas-y, tu peux avancer, je ne vais pas tout relire. Alors on verra le Fils de l'homme apparaître sur la nuée avec beaucoup de gloire. Vous voyez donc, la première partie, c'est Jérusalem qui est pillée. Ensuite, il y a le temps des nations. Et la dernière partie, donc, c'est le retour final avec tous les événements catastrophiques. Et c'est cette génération-là qui verra tous ces éléments de la dernière partie, qui verra aussi le retour du Seigneur. Donc, Jésus, la parenthèse qu'il fait, c'est que dans cette dernière partie-là, ceux qui verront les signes avec le ciel qui s'embrase, les étoiles qui tombent, etc., et qui verront le retour du Seigneur, c'est la même génération qui ne mourra pas parce que ce sera sur un délai très court. Et rappelez-vous ce que disait Alain la semaine dernière, c'est que la bête sera comme un léopard. Pourquoi ? Parce que ça va être très rapide. Ça va se passer en quelques années, quoi. Voilà. Vraiment quelques mois, ça va être très rapide. Donc c'est cette génération-là qui ne passera pas. Ce n'est pas l'ensemble de ceux qui auront vu tous ces événements, sinon ça ne tiendra pas. C'est clair ? Ça va ? Ouais, est-ce que ça peut être un petit peu... Alors, quand est-ce que Jésus va revenir ? Quand est-ce que toutes ces choses vont arriver ? Vous voulez savoir quand ça va arriver ? Eh ben, on ne sait pas, voilà. Ben bon, Alain vous l'a fait le coup la semaine dernière, donc je ne fais que répéter. Mais on ne sait pas, les amis. Regardez avec moi 13, 32 à 37. On ne sait pas, mais ce n'est pas grave. Voilà. On ne sait pas, mais ça ne change rien, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on va lire tout Matthieu 13, versets 32 à 37. Pas tout Matthieu 13, mais juste les versets 32 à 37. On ne sait pas quand il revient, mais ça ne change rien. Regarde. Matthieu 13, versets 32 à 37. Heureusement qu'on ne sait pas quand Jésus arrive. Sinon, on dirait, j'ai le temps, je vais encore faire deux, trois choses qui ne sont pas trop autorisées avant. Alors, Matthieu 13, 32, 37... Matthieu 13, hein, oui, 32, 37. Pour ceux qui est du jour et de l'heure, donc ce n'est pas le bon verset, c'est ça ? Vas-y, avance, 33. Ça ne doit pas être ça. Non, alors, je vous le lis. Vous retrouverez la référence. C'est pas c'est Marc, pardon. Pas Matthieu, Marc. Marc 13, verset 32 à 37. Je me suis trompé, je crois, quand je t'ai dit la référence. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel ni le Fils. Alors vous imaginez nous, quoi. Le Père seul connaît ce moment-là. Mais ça ne change rien. Parce que regardez, faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. C'est encore une parabole sur le royaume de Dieu. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs. Il indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants car vous ne savez pas quand viendra le maître de la moisson. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc c'est passé toute la nuit, un temps très long. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ah, il va revenir tout à coup. Hein. Et il dit, il ne faut pas vous trouver endormi, hein. Il va falloir rester éveillé. Hein. Alors, on relit le verset 33. Il y a trois choses que je veux voir avec vous ce matin qui sont importantes pour les chrétiens, et même si vous n'êtes pas convertis ce matin. Jésus dit trois choses. Faites bien attention, nous dit-il. Faites bien attention, restez en éveil. Et le troisième, c'est priez. Car vous ignorez quand ce temps viendra. Donc, faites bien attention, prenez garde. Le mot grec utilisé ici, alors ça ne vous parlera pas, et moi non plus, je sors ma science, mais c'est parce que le mot il est intéressant, c'est blepo, ça nous intéresse moins, mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire discerner, percevoir par les sens. Vous savez, souvent on dit les femmes, elles sentent beaucoup plus les choses que les hommes. C'est peut-être parce que je suis un homme, j'ai peut-être du mal des fois. Mais là, elle nous dit, il faut percevoir, il faut sentir les choses. Faites bien attention, regardez bien les choses, soyez attentifs, notamment aux prophéties, hein. Regardez bien. Faites attention, soyez vigilants. Deuxièmement, restez en éveil. Alors là, le mot grec, agrupneo, bon, ça veut dire être sans sommeil, être attentif, être prêt. C'est vraiment, vous êtes bien réveillé, quoi. C'est pas on vient de vous réveiller, il faut y aller, quoi. C'est, vous êtes attentif, vous êtes bien réveillé, vous êtes prêt, prêt à partir s'il le faut. C'est l'image utilisée, hein, c'est ce que le maître dit. Hein. Soyez bien éveillés, hein, que je ne vienne pas et je ne vous surprenne pas en train de dormir ou un peu comme ça. Quoi. Et le troisième point que dit le Seigneur, c'est la prière. Priez. Alors ça, les apôtres, vous allez voir que les disciples, ils étaient juste à côté du maître. Et puis comme souvent, ils ne comprennent pas, mais c'est normal, nous aussi, souvent on ne comprend pas tout de suite. Ce n'était pas l'attitude qu'ils ont eue. Le Seigneur leur avait dit... Je vais partir, je ne vous dis pas, vous ne savez pas et je ne sais même pas moi-même quand je vais revenir. Mais en attendant, vous faites bien attention, vous restez en éveil et vous priez. Prenez-le pour vous aussi ce matin. Et bien regardez l'attitude des disciples dans Acte 1, verset 4 à 14. Vous allez voir que ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Du moins pas en totalité, soyons honnêtes avec eux. Alors là, Jésus est ressuscité, il leur apparaît, et alors qu'ils se trouvèrent en leur compagnie, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, à ce moment-là, tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, où ça ?» À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Hop, le Seigneur, il est parti. Alors, les disciples, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, ils regardent, le Seigneur s'en va. Deux hommes habillés de blanc, deux anges, leur apparurent. On a vu les anges il y a quelques temps dans la doctrine. Et ces anges dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi vous restez à regarder le ciel ? Ce Jésus qui est enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Bon, ils sont plus cons parce que Judas est mort. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors j'ai volontairement lu tout le passage parce qu'on va le détailler. Jésus s'envole au ciel. Il leur dit, vous restez d'abord à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance, et il s'en va. Et puis les disciples regardent en l'air, comme ça. C'est normal, on aurait fait pareil. Hein. Il y a deux anges qui viennent rappeler l'enseignement du maître, là, ils disent. On va relire Luc 21-28. C'était ce qu'on avait lu au départ. Hein. Luc 21-28. Jésus leur avait dit, quand ces événements de la fin commenceront à se produire, redescendez-vous et relevez vos têtes parce que la délivrance est proche. Eux, ils ont encore la tête en l'air, en fait. Vous continuez de regarder en l'air, là. C'est intéressant, évidemment, mais ce n'est pas le moment. Les anges disent, qu'est-ce que vous faites à regarder en l'air ? Ce Jésus, il va revenir. Hein. En gros, ce n'est pas le moment, quoi. Vous avez autre chose à faire, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, on les retrouve donc à la fin du passage qu'on vient de lire. C'était donc acte 1-14. Là, ce n'était pas le moment pour regarder en l'air, c'était le moment pour veiller et prier. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils persévèrent à présent d'un commun accord dans la prière et ils sont tous en train de prier ensemble. Donc ils ont compris qu'en fait, Jésus nous avait dit, il y a un moment pour lever la tête, mais en attendant, il faut prendre garde, il faut veiller et prier. Les anges leur disent, c'est pas le moment de regarder en l'air. Là pour l'instant, prenez garde, veillez et priez. Et c'est ce qu'ils font, ils sont dans la prière. Est-ce qu'on est dans la prière ? Est-ce qu'on veille, est-ce qu'on prie ? Est-ce qu'on n'est pas tous les jours en train de dire, Seigneur, tu vas revenir là ? Tu reviens quand ? C'est bien, il faut attendre le retour du Seigneur, c'est ce qu'on a vu, hein. C'est l'état du chrétien, se convertir, servir et attendre le retour du Seigneur. Mais Jésus a dit, voilà, en attendant que je revienne maintenant, prenez garde, veillez et priez. C'est pas le moment de regarder en l'air. Il faut être attentif au temps de la fin, il faut prendre garde, mais il faut pas passer la journée de façon imagée, en attendant juste le retour du Seigneur, ça veut dire qu'en fait, on ne servirait pas. On serait peut-être dans sa pièce, là, puis on attend le retour du Seigneur, comme des moines enfermés dans un monastère, quoi. On attend. Voilà. Soyons dans la prière, soyons vigilants, prenons garde. Alors, j'aimerais juste finir par une dernière petite parenthèse, cette dernière histoire qu'on vient de lire, là, sur le maître de là. Le maître qui s'en va. J'aimerais faire un petit clin d'œil à ce que va vivre notre Église dans les prochains mois. Notre pasteur s'en va, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'Église, on va se retrouver sans pasteur. Alors, on va relire cette petite histoire et on va essayer de voir les choses pour nous. On va la remettre, si tu veux bien, Marc 13, verset 34. Lisez-la en pensant à notre Église. Marc 13, 34. Notre pasteur va être honoré. On le met en parallèle avec le Seigneur. Là. Enfin, on va dire que c'est... Voilà. Se passera comme pour un pasteur qui part en voyage et qui laisse son église. Il remet l'autorité à ses serviteurs, il indique à chacun son travail et il ordonne au portier de rester réveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. » Donc le retour du Seigneur. Alors reviens au verset 34. Donc il y a un homme qui part, il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs. Il a dit qu'à chacun son travail, et il ordonne au portier de rester éveillé. Et effectivement, là, on va se retrouver sans pasteur, sans maître de maison. Et l'administration de l'église, bah, ça va être à des serviteurs, ça va être aux hommes là, qui vont rester. On va être quatre aujourd'hui à devoir administrer l'église. Croyez-nous les amis, on ne va pas rigoler. Et la pression est forte et que c'est une lourde tâche. Donc, priez pour ceux qui auront l'autorité dans l'église parce que c'est une lourde charge. Voilà. Soyez avec nous dans la prière aussi, que le Saint-Esprit soit avec nous. Mais pour ceux qui vont rester, justement, on voit deux choses. C'est qu'il indique à chacun son travail. Donc, c'est valable pour les quatre hommes responsables, mais c'est aussi valable pour tous les membres. Tous ceux qui font partie de cette église, chacun son travail, chacun sa tâche. Ici, il y en a qui sont responsables des enfants, de la musique, du ménage, de plein de choses. Tout le monde a à peu près une tâche. Ceux qui n'en ont pas officiellement, vous avez la plus belle des tâches. C'est laquelle ? La prière. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde a une tâche à accomplir. Donc soyons vigilants que dans les prochains mois, quand il n'y aura pas de pasteur, que chacun individuellement remplisse bien sa fonction, que chacun non plus ne remette pas en cause la fonction de l'autre, parce que c'est à chacun son travail. Donc voilà, parfois il peut y avoir, hein, donc c'est très bien, le cœur humain est comme ça, des tendances à vouloir, etc. Non, chacun son travail, l'autorité à certains serviteurs, mais rassurez-vous les amis, la note d'espoir elle est là, on n'est pas tout seul. Qu'est-ce qui fait le maître ? Il ordonne au portier de rester éveillé. Le portier, c'est qui ? Le Saint-Esprit. Le maître, il s'en va, il dit, voilà, les serviteurs, ils vont faire tout ça, mais le portier, tu vas rester attentif. Hein. Tu vas rester éveillé. Hein. Pourquoi ? Parce que le mot qui est employé, ici, c'est grégoréo. Je vous ai assommé de grec ce matin. Rassurez-vous, je ne parle pas le grec, j'y comprends rien. Ce qui est intéressant, c'est le sens du mot derrière. Ça veut dire porter une attention stricte, faire attention à l'inertie ou à la négligence envers de soudaines calamités qui pourraient survenir soudainement. C'est-à-dire dans le sens, c'est, il y a un truc qui peut tomber d'un coup, mais justement, dans le sens d'éveiller là, c'est attention de ne pas rester inerte ou négligent, de bien voir les choses. Et c'est justement la tâche du Saint-Esprit, là, du portier, c'est de dire, s'il se passe un truc, c'est à toi de réagir. Donc rassurez-vous les amis, on sera peut-être négligent, on sera peut-être pas bien attentif par moment, le Saint-Esprit sera là pour veiller, hein. Mais on doit aussi rester éveillés nous tous, hein. Le Saint-Esprit veillera sur notre Église, les amis. Waouh ! Alors on doit être rassuré. Le Seigneur n'abandonnera pas sa maison, heureusement. Donc c'est à nous à présent de travailler en ordre, autorité, la place de chacun, etc. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est le désordre. Vous vous rappelez, vous connaissez cette période des juges en Israël ? Il est répété à plusieurs reprises. En ce temps-là, en Israël, il n'y avait pas de roi et conséquence. Chacun faisait ce qu'il voulait. Est-ce que c'était de l'ordre ? Non. Et je crois que dans l'histoire d'Israël, ils ne sont jamais tombés aussi bas spirituellement. Quand on relit les juges, on voit des atrocités qu'on ne verrait même pas dans le monde aujourd'hui. C'était tombé très bas. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de roi ? Chacun faisait ce qu'il... Il n'y avait pas de roi à l'époque. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et le roi des rois, il l'avait complètement abandonné. Il ne faisait même plus les sacrifices. Enfin, c'était devenu n'importe quoi. Il y avait des idoles partout. Ils avaient complètement abandonné le Dieu d'Israël. Plus de roi, plus d'autorité, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc c'est aussi un avertissement pour nous, attention, de l'ordre. Soyons prudents. Alors je vais résumer pour conclure ce que j'ai dit ce matin, ce qu'on a évoqué. Alors, Christ va revenir un jour. Amen, ça c'est le plus important. Le Seigneur va revenir. C'est l'espérance du chrétien, c'est ce qu'il doit attendre. Tout simplement, on ne sait pas quand. Bon, mais c'est pas grave, ça ne change rien, parce qu'on doit donc avoir plusieurs attitudes. Premièrement, si vous n'êtes pas sauvé ce matin, la conséquence, Christ revient, n'attendez pas. Si aujourd'hui on vous donnait un trésor inestimable, j'arrive, là j'ai un trésor inestimable à vous donner, je crois pas que vous me diriez, on verra demain, hein. On verra à la retraite, hein, ton cadeau là. Non, si c'était vraiment un grand trésor, vous le prendriez tout de suite. Le retour du Seigneur et le salut en Christ, c'est un grand trésor, c'est le plus inestimable. Alors ne le rejetez pas, acceptez-le aujourd'hui. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, eh ben en attendant le retour du Seigneur, il y a trois choses à faire. Rappelez-vous ce que c'était. C'était prendre garde, veiller et prier. Voilà. Alors mes amis, prions pour le retour du Seigneur. Prions que Dieu nous donne le discernement concernant les temps de la fin aussi, d'être attentif, de bien voir les choses. Prions aussi qu'il nous aide à être de bons serviteurs à l'œuvre tous pendant que les prochains mois, là, pendant qu'il n'y aura pas de pasteur, il faut qu'on soit tous unis, qu'on serre bien les coudes. Donc voilà, prions aussi pour l'unité par le Saint-Esprit en attendant que le Seigneur revienne nous chercher, les amis. Ça se trouve, ce sera là dans quelques jours, hein, on ne sait pas. Hein. En attendant, j'aimerais conclure avec juste 3 versets dans Apocalypse comme un encouragement, une exhortation. Apocalypse 3, versets 10 à 13. Prions qu'au retour du Seigneur, quand on sera face à face avec lui, il nous dise ceci. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons des oreilles et nous avons pu écouter, Seigneur, et nous avons voulu aussi entendre, Seigneur, ce que tu avais pour nous. Tu dis que tu reviens bientôt, Seigneur, c'est notre espérance et nous l'attendons, Seigneur, ce retour. Nous voulons te dire viens bientôt, Seigneur, mais aussi nous savons que c'est un temps de patience. Alors viens bientôt, mais sauve, Seigneur, sauve le plus grand nombre vite, afin que les temps s'accomplissent, mais que personne, Seigneur, ne reste ici-bas. Seigneur, veille sur nous pour que nous soyons attentifs, que nous prenions garde et que nous prions, Seigneur. Que nous soyons dans cette attitude. Notamment dans les prochains mois, Seigneur, qui seront des temps où nous serons en autonomie, Seigneur, à l'Église. Que par ton Saint-Esprit, tu veilles sur cette maison et sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, nous prions pour que tu reviennes et que tu nous gardes fidèles, que tu nous aides à l'être, pour que tu puisses nous dire un jour ces belles choses que nous venons de lire pour conclure. Seigneur, nous t'en prions pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ. Amen.